Vous l'aurez compris, l'ensemble de ces trois textes que nous venons d'entendre, associés au psaume, viennent nous poser la question de l'appel. Ils viennent aussi poser la question de la relation avec Dieu. Qui est-il ce Dieu ? Dans la première lecture, au moment où le roi Ozias meurt, en 740 avant Jésus-Christ, Isaïe a une vision. Et dans sa vision, il voit Dieu assis sur un trône. Des anges, dont la description fait penser aux anges qui ornent l'Arche d'Alliance, chantent une liturgie, « Saint, Saint, Saint le Seigneur ». La gloire de Dieu emplit le temple avec de la fumée. La gloire de Dieu, en hébreu, la kavod, c'est celle qui vient nous couvrir de son ombre, qui vient nous protéger. C'est sans doute pourquoi dans les synagogues, les juifs mettent le châle de prière, le talit, par respect, pour bien marquer la séparation entre la kavod qui descend et nous qui sommes indignes de la recevoir. Vous avez pu voir aussi cette belle liturgie de l'ange qui vient toucher avec le charbon les lèvres du prophète parce qu'il se sent indigne. Dans l'Évangile, on retrouve un petit peu de cela. Il y a d'abord cette foule qui sert Jésus. Attention, la traduction liturgique est parfois erronée. Comme disent les Italiens, « traduttore, traditore », n'est-ce pas? Et là, effectivement, la foule le sert. Dans cette description du début de l'Évangile, l'auteur insiste sur la proximité de Jésus avec cette foule. La foule sert Jésus pour écouter la parole de Dieu. Elle le sert. Comme si cette parole de Dieu était associée à un geste, un contact tactile. On sert Jésus comme pour mieux recevoir cette parole. Jésus change de tactique pastorale dans l'Évangile. Et cette fois-ci, c'est peut-être pour mieux montrer sa divinité. Il prend du large en montant sur une barque et il est assis sur la barque. Il est Yeshev, un peu comme Dieu dans la première lecture. Mais c'est que Jésus est Dieu. Et c'est bien ce que dira à Pierre après, quand il dit « Seigneur ». Cette expression « Seigneur », elle n'est pas pour un homme, elle est pour Dieu. Dans sa foi, Pierre reconnaît en Jésus son Dieu, son Sauveur. Regardez maintenant l'histoire défilée. Souvent, on a associé ce geste de jeter les filets à l'évangélisation. Mais si on veut vraiment ajuster le geste, il faut l'entendre en grec. Jésus ne dit pas « jeter les filets » en grec. Il dit « laisser descendre les filets ». L'évangélisation en est donc tout à fait différente. Les apôtres laissent descendre les filets et ceux qui veulent bien entrer dans le filet de l'Église s'approchent. et entre. Il y a quelque part là quelque chose de l'ordre de la liberté qui se joue, qui est bien différente si les apôtres jettent les filets. Et enfin, à la fin de l'évangile, ils ramènent les barques au rivage et on nous dit « laissant tout ». Là aussi, traduttore et traditore, désormais il faudra faire attention. Ils ne laissent pas tout, ils abandonnent tout. C'est le mot, le terme le plus juste, associé à cette action finale des premiers disciples de Jésus qui le suivent. Ils abandonnent tout. Nous sommes appelés ainsi à nous approcher de la parole de Jésus, à être en contact avec elle, à avoir un geste même tactile avec cette parole de l'Écriture, à être au plus près de Jésus, et c'est pourquoi nous recevons l'Eucharistie, nous communions, nous mangeons son corps. Il y a bien un geste là concret qui nous donne une grande proximité avec notre Dieu Sauveur. Évidemment, il nous faut passer aussi par la même attitude que celle du prophète Isaïe et celle de l'apôtre. Je ne suis pas digne. Éloigne-toi de moi. Je suis pécheur. J'ai besoin d'une conversion. Et à chaque fois que nous vivons un sacrement, et même pour le sacrement des malades, il nous faut vivre cette conversion, reconnaître que notre état n'est pas ajusté à celui de Jésus et qu'il nous faut reconnaître en nous cet état. Souvent, quand on est malade, quand on est fatigué, quand on a pris de l'âge, on ne veut pas le reconnaître. Et il nous faut reconnaître cela pour recevoir l'imposition des mains. Ensuite, il nous faut reconnaître en Jésus, le Christ, notre Dieu Sauveur, comme Pierre. Suivre Jésus, ce n'est pas évident. Souvent, on s'attache à telle ou telle chose. On ne veut rien abandonner. On peut laisser des choses, oui. Ça, je le laisse. Ça, je le prends. Mais on n'abandonne rien. Que veut dire abandonner? Que veut dire alors s'abandonner à Dieu? Particulièrement lorsque nous sommes malades et que nous avons le désir de recevoir de Jésus, le Christ, de Dieu Sauveur, une guérison. Il nous faut tout abandonner, absolument tout. Considérer que nous avons tout à remettre entre les mains de Dieu et que lui seul peut faire quelque chose. Peut-être que nous ne croyons pas au miracle. Peut-être que nous y croyons trop pour nous dire nous sommes indignes de vivre quelque chose qui est de cet ordre-là. Peut-être n'avons-nous pas besoin de recevoir ce sacrement, pensant qu'avec nos seules forces, quelque chose peut se réaliser. Le sacrement de malade est un don de Dieu qui appelle la personne à suivre le Christ d'une manière particulière pour être au cœur du monde. Signe que Dieu sauve, signe aussi de l'association de la souffrance dans la maladie à la souffrance du Christ sur la croix, par l'imposition des mains, par l'onction d'huile des malades, la personne est vivifiée dans sa foi. la personne est renouvelée d'une manière particulière dans sa relation à Dieu. Et quoi qu'il arrive, il n'y a que cela qui compte. La prière de la communauté fraternelle et la joie de se savoir reconnu comme tel en Jésus-Christ, par Dieu Sauveur. Peut-être tout à l'heure, vous serez nombreux à désirer recevoir ce sacrement. Vous y êtes-vous préparés ? Avez-vous pris le temps de la réflexion et éventuellement d'aller rencontrer un prêtre pour recevoir le sacrement de la pénitence et de la réconciliation ? Vous sentez-vous prêt à recevoir ce sacrement des malades pour être témoin et signe que Dieu sauve au milieu de son peuple, qu'il est source de bien, de réconfort, qu'il vient guérir toute maladie, qu'elle soit corporelle, qu'elle soit psychique, qu'elle soit spirituelle. Aujourd'hui, dans l'appel que Jésus fait, lorsqu'il accueille ses quatre premiers disciples, il connaît très bien qu'ils ne sont pas parfaits. Et il sait très bien qu'il leur manquera des choses, qu'ils l'abandonneront au dernier jour, au moment de mourir. Mais il les appelle là où ils sont, là où ils en sont. Et c'est cela qui compte. Est-ce que chacun de nous se sent appelé à suivre le Christ et d'une manière ou d'une autre à désirer abandonner, s'abandonner pour vraiment le suivre ?